Réintroduction. Attends un peu, là, on va enlever les pattes. OK. C'est quoi le titre, Sonia, de quoi qu'on va parler?
Ce matin, ce que je trouve vraiment c'est que...
Qui s'est dit déjà, ça va avec ce que nous, on amène ce matin. Ça s'appelle... le titre est assez long. « Demeurer dans l'amour de Dieu et dans son intimité. » Demeurer dans l'amour de Dieu et dans son intimité. C'était vraiment ce que j'avais à cœur, ce que nous avions à cœur. Puis c'est parce que c'est pour nous le plus important. C'est le plus important. On peut faire plein de choses, on peut faire vraiment beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, mais ça, c'est le sens. Dans son amour et demeurer dans son intimité.
Par rapport à ça, ce qu'on se réalisait, c'est que depuis quelques semaines, on voit que les messages s'orientent vers ça. Je me rappelle le message de Yvan quand il parlait de l'ancre, puis de la corde qui retient l'ancre au navire ou quand ça descend. Il disait que c'est ça qui nous retient au cœur du Père, c'est ça qui nous retient à Dieu. C'est une image de cette image-là, justement, que on a besoin d'un contact avec Dieu. On a besoin d'intimité avec Dieu. Puis, on veut vous présenter un peu qu'est-ce qu'il faut faire? Puis, notre meilleur modèle, c'est qui? C'est Jésus. Ça fait qu'à partir de là, on va vous parler, on va discuter, on va échanger, on va chicaner. Non, on ne chicanera pas.
Pas trop.
Pas trop. Mais, c'est juste pour vous dire que, puis, par après, la semaine passée, le message de Pasteur Roulant, c'est que dis-tu que Dieu dit de toi? C'est tout ça. Parce que notre identité, notre valeur, on a une immense valeur. On a une immense valeur. On est précieux aux yeux de Dieu. Mais on a un que dans Jean 10, Jésus dit, c'est un menteur. On a un ennemi qui est un menteur et qui veut nous offenser, qui veut nous faire croire toutes sortes de choses. Ah, justement, par rapport à ça, voilà quelques années, on date de ça, là. On parlait, Sonia et moi, puis moi je disais, il faut que tu te protèges tes pensées, il faut tes pensées, parce que l'ennemi il attaque là au niveau des pensées. Puis là, elle me demande, c'est quoi tu fais toi pour pas écouter les paroles de l'ennemi, parce que souvent il arrive puis il nous dit des choses l'ennemi. J'ai dit, je ne l'écoute pas. Puis là, pendant une semaine, savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai écouté. Pendant une semaine, j'ai écouté les mensonges de l'ennemi. Et au bout de la semaine, j'étais comment? Là, je descendais à Scotec, j'étais rendu un mauvais mari, un mauvais papa, j'étais rendu un gars égoïste, j'étais rendu ici. Elle dit, wow, là, ça marche pas, là. Fait que, j'arrête. Faut prendre position, faut s'affirmer, faut aller dans la parole, aller voir, justement, qu'est-ce que Dieu dit de nous, et faut aller dans son intimité pour être rassuré. Parce que l'ennemi attaque tout le temps, puis il attaque souvent au niveau des pensées. Fait que, je vais laisser continuer, Sonia.
Bon, bien, premièrement, j'aimerais qu'on prie un peu ensemble. On prie. Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens nous éclairer. Viens, Seigneur, nous aider, Daniel et moi, de donner clairement ce que tu veux que nous donnions, Seigneur. Et viens toucher chaque cœur, Seigneur. Viens, alléluia, alléluia, que ton nom soit élevé, Seigneur, que tu sois louangé, Seigneur. Seigneur, que tout ce que nous disions, faisions, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, touche-nous, Seigneur, ce matin. Révèle-nous encore plus de ton amour, révèle-nous encore plus de qui tu es, Seigneur, parce que nous voulons rentrer dans une plus grande intimité avec toi, encore plus, Seigneur.
Amen.
Alléluia, touche chaque personne ici. Amen.
Amen.
Premièrement, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Puis, j'aimerais lire un psaume par rapport à cela aussi. Quelque chose qui m'est venu à cœur cette semaine. C'est.
Ils peuvent l'afficher aussi.
C'est dans le psaume 131. C'est pas un psaume qui est long, mais c'est un psaume qui est de circonstances. Et puis qui vient aussi parler de qu'est-ce qu'on veut discuter ce matin. C'est Cantique des degrés de David, psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alléluia! Dans la présence de Dieu, on est comme un enfant dans les bras de sa mère. Et qu'est-ce qui est plus beau que de voir un enfant dans les bras de sa mère? Qu'est-ce qui est plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant? Qu'est-ce qui est plus fort que l'amour de l'enfant pour sa mère? Tu sais, un enfant qui est dans ses bras, qui demeure dans ses bras, qui est dans l'intimité de sa mère, qui ressent l'amour de sa mère. Et puis, c'est tellement fort. Puis on demeure mère, on le sait, nous, les mères, qu'on demeure mère toute notre vie. Donc, c'est que, quand même que nos enfants mesurent 6 pieds 2 comme Jean-Philippe, ben j'aime bien le serrer quand même. Il s'assoit plus sur mes genoux, mais en tout cas, on se serre quand même. Puis, on demeure mère toute notre vie. Puis, cet amour-là est viscéral. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment profond. Puis, c'est quelque chose qui part pas. C'est viscéral. Tu sais, c'est l'amour d'un père, c'est bon.
C'est très bon.
Mais l'amour d'une mère, c'est viscéral. On a porté l'enfant dans notre ventre. On l'a allaité. Ben, pour moi, en tout cas, j'ai allaité mes enfants quand même assez longtemps aussi, faut dire, là. Et puis, c'était tellement profond. C'était tellement merveilleux. Donc, c'est la petite parenthèse par rapport aux mères ce matin. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est que si l'amour d'une mère est si profond, si l'amour d'une mère pour son enfant est si grand, qui a créé ça? Qui a créé l'amour de la mère pour son enfant? C'est Dieu, le Créateur, qui crée ça. Donc, imaginez comment que son amour peut être intense pour nous qui sommes ses enfants. Comment son amour est grand pour nous, puis il dépend pas de qu'est-ce qu'on fait. Il nous aime, point. Il dépend pas de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas, de qu'est-ce qu'on dit ou de qu'est-ce que de nos manquements ou quoi que ce soit. Il nous aime, point. Et si il faut être sécure dans cet amour-là, comme l'enfant est sécure dans les bras de sa mère, on doit être sécure dans l'amour de notre père, parce que c'est de là que découlent les sources de la vie. Ça coule sur nous. Puis ça va couler sur les autres parce que si on est sécure dans l'amour de notre Père, on va être sécure pour toutes les autres choses de notre vie. On va être capable de donner. On va être capable d'aimer parce que Dieu nous a aimés en premier. On va être capable de l'aimer. On va lui rendre ce qu'il nous donne. On va être capable de le faire. Il nous rend capable d'aimer les autres. Il nous rend capable de vaincre tout ce qui peut ne pas venir de lui. Il va nous rendre capable. Alors, c'est pour ça qu'il faut être vraiment ancré dans son amour. Donc, c'est l'introduction ce matin. C'est demeurer dans l'amour, dans son intimité.
Puis, moi, je voudrais que cet instinct maternel-là, qui est tellement fort chez les humains, on le retrouve aussi dans le règne animal. Il y a beaucoup de mamans mamans animales qui sont prêtes à donner leur vie pour leurs enfants. On a tous entendu l'histoire de la maman poule qui, lorsqu'il y avait un feu dans le poulailler, a pris ses poussins sous elle, puis qu'elle est morte à cause du feu puis de la fumée, mais que sous elle, toutes les poussins avaient eu leur vie. Puis ceux qui font de la randonnée savent que la pire place où tu veux pas être dans une randonnée, c'est entre une maman ours et ses bébés ours. Parce que c'est la pire place où aller et tout ça. Puis c'est ça. Les femmes ont le privilège, justement, d'avoir donné la vie puis de créer ce lien-là. Mais je pense, dans le couple, on faut le développer, l'intimité et tout ça. Puis je vous dirais, nous, on a le privilège depuis quelques années d'avoir développé notre intimité de plus en plus, parce que c'est certain qu'on passe beaucoup de temps ensemble, mais je vous dirais, un élément qui a vraiment changé, c'est depuis quand qu'on a commencé à prier ensemble? Ça fait plusieurs mois qu'on a commencé. Avant ça, on priait chacun de notre côté et tout ça, mais là, on a commencé à prier ensemble. Le matin, on prend notre café, puis après ça, Sonia lit un extrait dans la parole, puis moi je lis un extrait, puis après ça on se lève, puis on marche. Puis au début on se faisait des listes de prières, mais à cette heure on demande au Saint-Esprit de nous guider, de nous éclairer, puis on marche dans la maison et l'on prie. On prie ensemble, un après l'autre, ou pas en même temps, en tout cas on se comprend, je veux dire. Puis Mais on prie du temps ensemble, puis ça a rapproché notre intimité de l'un l'autre, une complicité. Au début, là, comment c'est allé, Sonia, ça allait super bien, c'est juste moi qui parlais, hein?
Non, c'était, ben, en tout cas, je me souviens pas trop, mais en tout cas,
mais comment
que,
c'était au début, c'était pas si facile que ça.
C'est ça, plus, ben, c'est une pratique. Plus on le fait, plus on a le goût de le faire, plus on est apte à le faire. Si on, moins on le fait, plus c'est difficile. C'est la même chose pour l'intimité avec Dieu. Ben plus on entre dans sa présence, plus on le fait, ben plus ça devient facile. On pratique la présence de Dieu comme on peut pratiquer un sport. Tu sais, c'est mettons que c'est peut-être. En tout cas, si on pratique un sport, on devient de plus en plus apte à le faire. On devient meilleur. Donc quand on entre dans la présence de Dieu, on le fait de plus en plus et toujours de plus en plus et ça devient de plus en plus facile, ça prend de moins en moins de temps, puis là on entend la voix de Dieu. Hein, on entend la voix de Dieu. Puis là on c'est tellement bon, puis là on développe ce goût là, le goût est là de d'y aller, de toujours y aller plus. Donc c'est ça, c'est plus on le fait, plus on a le goût.
Puis les journées où on peut pas le faire, ça nous manque. C'est rendu terrible, hein? Ça nous manque de passer du temps ensemble, à prier ensemble l'un et l'autre. Ça fait que ça a un impact à tous les niveaux parce que, je ne sais pas vous autres les gars, mais moi, j'ai de la misère à prier à voix haute, puis avec Sonia, il y a comme un malaise, une gêne, un inconfort. Mais une fois que tu as dépassé ça, tu deviens plus confortable, tu as un sentiment de compétence, parce qu'on le sait tous, les femmes ont plus de talent que les hommes pour prier, hein. Mais les hommes, on a
c'est
à développer.
C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un faux raisonnement.
C'est une bonne excuse, je trouvais.
C'est faux.
Mais c'est juste pour vous dire que ça prend des efforts. Prend des efforts. Puis même, on regardait dans le Nouveau Testament, parce qu'on s'est beaucoup attardé au Nouveau Testament. Regarde. C'est ceux qui étaient auprès de Jésus, ceux qui sont allés sur les montagnes avec Jésus, et même lors de la transfiguration, c'est écrit, Jésus est allé sur une haute montagne. Ça demande des efforts, ça demande une discipline, ça demande un bon vouloir. Et ça, c'est pas toujours évident. Et vous vivez des vies, travail, boulot, repas, puis tout le kit, des vies. On a un rythme de vie en 2017 qui est très, très... Mais qui est
très
trop
rapide.
Qui est trop rapide. Là,
nous,
trop
on rapide. A le privilège d'avoir du temps quand même.
Exactement.
Mais il faut quand même prendre le temps.
On est bénis.
Même si les gens sont occupés, même si vous avez des vies très, très occupées, il faut faire les priorités, prendre le temps.
C'est un investissement.
L'intimité, c'est le temps. C'est la première chose, c'est prendre le temps. Parce qu'il faut décider de prendre du temps avec Dieu. Parce que si on ne décide pas, si on ne le met pas dans notre agenda, on le fera pas parce que avec la vie folle que la plupart des gens mènent aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se rajoutent, puis même l'ennemi est rusé. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il veut pas, l'ennemi? Il veut pas. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on perde la foi, qu'on perde notre communion avec Dieu. S'il réussit à nous faire perdre ça, il a gagné. Il gagne dans notre vie s'il réussit à nous faire perdre le contact avec Dieu, avec Jésus.
Et combien de fois on commence à prier, puis qu'est-ce qui arrive?
Ben, le téléphone sonne. Ben, puis là, ben, on pense, bon, qu'est-ce que je vais faire pour dîner, mon doux? Il me manque un ingrédient. Tu sais, des choses comme ça.
Exact.
Là, on pense que c'est nous qui pensons, mais là, c'est l'ennemi qui vient mettre des idées parce que il veut pas qu'on prie, il veut pas qu'on rentre dans sa présence. Alors, il y a un blocage qui est là, qu'il faut réussir à passer par-dessus ça. Puis, une fois qu'on l'a fait, ben là, quand il s'aperçoit qu'il peut plus rien faire, ben il va nous laisser tranquille. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va s'essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas une vie d'intimité avec le Seigneur.
Et là, ça nous amène au point de demeurer.
Moi, j'ai cherché dans la concordance le mot demeurer, vu que c'est notre titre. Demeurer. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que à peu près presque tous les versets qui ont rapport avec demeurer. C'est dans l'Évangile de Jean et dans la première épître de Jean. Donc, c'est spécial que ce soit dans l'Évangile de Jean et dans la première épître de Jean.
Et Jean était reconnu pour quoi? L'apôtre de quoi?
L'apôtre de l'amour.
L'apôtre de l'amour.
Il prêche sur l'amour. C'est l'amour demeuré en lui, c'est l'amour, c'est et qui, ouais, qui avait la tête sur l'épaule de Jésus au dernier repas?
Okay.
C'est Jean.
Et dans l'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles, on parle de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'on disait à la fin de sa vie? Il était rendu vieux. Il radotait quoi?
Non, l'apôtre Jean.
L'apôtre Jean, excusez. Hey, merci Sonia. Bon, c'est quoi qu'il disait? OK, attends un peu. Ça me dit, l'amour que Jean connaissait et qu'il avait puisé dans le cœur du divin maître se manifesta jusqu'à la fin de sa vie. On raconte que trop âgé et trop faible pour amener un message, puis même pour se rendre dans les assemblées, il s'y faisait porter. Et incapable de prononcer un long discours, comme nous autres on va faire ce matin, un long discours, il se bornait à répéter, attends un peu, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi lui demander les frères, redis-tu toujours la même chose? » Il dit, « Parce que c'est le commandement du Seigneur, répondait l'apôtre, et que s'il est accompli, tout est accompli. En effet, l'amour est de Dieu, et quiconque aime Dieu et connaît Dieu va être amour. » Et c'est ça, c'est qu'on parle, c'est que c'est facile de parler à l'intellect, mais c'est au cœur. Puis Dieu, avec l'intimité, il vient nous toucher. Direct oui. au cœur. Oui. Il passe même pas par la tête, c'est oui. le cœur qui est touché par
l'intimité. Puis les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur.
Et c'est pour ça l'importance de demeurer. Puis je oui. te laisse aller avec les autres versets.
Oui, c'est ça. Puis personne ne peut voir notre cœur excepté le Seigneur, à moins qu'il soit révélé à quelqu'un. Ça peut toujours arriver, mais on peut pas se comparer les uns aux autres. On peut pas. Le Seigneur sait qu'est-ce qui est dans notre cœur. Le Seigneur le sait.
Et vous êtes tous individuels, vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques avec les talents que Dieu a mis en vous. Et c'est pour ça qu'on a tous la même importance. On a des rôles différents, mais on a tous la même importance. Là, quel verset que tu veux?
OK. Bon, ben, l'exemple de Jean, moi, c'est l'apôtre de l'amour, de l'intimité. Donc, même Jean, on peut dire que Jésus avait des foules qui le suivaient. Il y avait 70 disciples, il y avait 12 apôtres, il y avait trois qui étaient plus proches, Pierre, Jacques, Jean, et il y avait Jean. Bon, alors on va aller voir qu'est-ce que Jean dit.
OK, non, ça va être Daniel. Daniel dit que Jean disait, ce qui est intéressant.
Daniel dit que Jean dit.
Oui, que ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai appris, c'est que Dieu nous transforme tout au long de notre vie. Il est apôtre de l'amour et tout ça, puis il dit, aimez-vous. Est-ce qu'il a toujours été de même? Ben non, c'est ça, il n'a pas toujours été de même. Premièrement, quand Jésus a recruté ses premiers disciples, ça a été qui? Ça a été Pierre et son frère André. Qui était un peu plus loin, qui travaillait avec le père? Jacques et Jean, qui étaient dans la barque, les fils de Zébédée. Et Jésus, de suite, il leur a donné quel nom?
Les fils du tonnerre.
Boanerges, qui veut dire les fils du tonnerre. Et pourquoi? Parce qu'il était zélé pour le Seigneur, puis il y avait un feu. C'est pour ça que tu les retrouves tout le temps partout, eux autres. C'est peut-être pas Jésus qui... Quoi? C'est peut-être pas Jésus qui les invitait, mais c'était eux autres qui voulaient être près de Jésus. Ils voulaient être le servir, ils voulaient être disponibles. Puis même, ils voulaient faire brûler la Samarie. Rappelez-vous, quand en dernier, Jésus y est allé pour s'en aller, puis là, ils ont dit, veux-tu qu'on fasse...
Descendre le feu.
Oui, merci.
Vous devez faire descendre le feu, mais c'était pas le feu du Saint-Esprit.
Exactement.
C'était le feu, hein?
Exactement. Mais ce qui est intéressant, si Jean est capable de faire ça, c'est que, puis à la fin, tout ce qu'il parle, c'est d'amour, c'est qu'il y a eu une transformation dans son cœur, tout comme Dieu fait une transformation dans nos cœurs. Comme moi, Sonia et moi, je, la première année et demie, la première année qu'on a sorti ensemble, on s'est rencontrés à tous les jours, même des fois, c'est juste une demi-heure. On se voyait à tous les jours, puis on s'aimait.
Excepté trois jours.
Oui, quand j'étais allé dans un camp escuminaque en Gaspésie. Mais c'est juste pour vous dire que j'avais faim et soif de sa présence, j'avais faim et soif d'être avec elle. Puis Dieu a le même désir envers nous. C'est Dieu qui a fait les premiers pas. Mm-hmm. Et nous, on a à se laisser attirer par lui.
Oui. Donc, on va aller dans Jean 14. Essentiellement, le mot « demeurer » est dans Jean 14 et Jean 15. Je vais commencer à lire. OK. C'est Jésus qui parle. à partir du verset 9, ça dit, « Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, à partir du verset 10, on parle du mot « demeure ».« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » On demeure dans le Père, on va avoir des paroles du Père. Après ça, le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Après ça, au verset 17, ça dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure éternellement, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, on parle du Saint-Esprit qui demeure en nous. Au verset 18, ça dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Seigneur nous donne un esprit d'adoption. Donc, on n'a pas un esprit d'orphelin.
C'est ça, mais on était orphelin. Ouais. On était orphelin et quand on donne notre vie au Seigneur, on n'est plus orphelin. Mais c'est facile de perdre. C'est nous qui vont s'éloigner.
Oui, c'est ça.
C'est nous qui allons se laisser distraire par d'autres choses. C'est nous qui allons, justement, c'est ça.
Aussi, c'est le correct. Verset 23, ça dit, « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons lui, nous ferons notre demeure chez lui. Le Père et le Fils font sa demeure chez lui et nous garderons sa parole. Sa parole va être dans notre cœur. Sa parole va être en nous et sa parole va porter du fruit en nous. » Donc, c'est ça, Jean, c'était ce qu'il expliquait. C'était différent, l'évangile de Jean, des trois autres évangiles. Jean parlait plus de ce que Dieu faisait en nous que des différentes choses que Jésus a faites comme dans les autres évangiles. Matthieu, Marc, Luc racontaient ce que Jésus faisait. Ici, dans Jean, mais Jean, il tient vraiment important le fait de demeurer dans son amour puis dans tout ce que Dieu a pour nous, finalement. Donc, après ça, on va dans Jean 15, 4 à 7. Ça dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Donc, on continue. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Exact. Donc, si on veut faire des choses par nos forces, on va être capable d'en accomplir, mais ce ne sont pas nécessairement les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, et ça aura pas les résultats. Il faut rester vraiment rattaché au cep. C'est un peu comme Yvan le disait il y a deux semaines, quand son rosier, c'était un rosier ou un, en tout cas, ouais. Puis il y a des racines souterraines, mais sont toutes interreliées l'un à l'autre. C'est pour ça que nous, il faut être dépendant du cep, puis dépendant de. Puis le cep, c'est qui? C'est Jésus.
Oui, c'est ça. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Si nous sommes coupés du cep, ça dit que on va sécher.
Ah oui.
La personne qui veut sécher, on ne veut pas sécher. Si on sèche, on est juste bon à être ramassé, jeté au feu.
C'est ce que
Jésus dit. C'est quand même assez spécial comme parole, mais c'est l'important de rester greffé au cep. C'est vraiment important. Puis la pluie vient, arrose le cep, les sarments sont arrosés, portent du fruit. Alors, si on veut porter du fruit dans notre vie, on ne portera pas des fruits de la chair, on va porter les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, toutes ces choses, et aussi tout plein d'autres bons fruits que Dieu veut qu'on porte. On va les porter parce qu'on est rattaché au cep.
Et ça va être en abondance, parce que Dieu va pourvoir, va nous en donner, au feu, il va nous donner... Il va mettre ces fruits-là en action dans nos vies, puis on va les vivre, puis on va être capable de les partager avec les autres. Ça va bien, ça, non? On se débrouille bien. On aurait quasiment pour deux messages. Fait qu'on viendra. Parce qu'on n'est pas rendu loin, mais ça va bien.
Mais c'est énervant, je dois vous dire, c'est énervant. Mais...
Non, moi, je commence à être confortable.
Ouais. Ben, lui, il est habitué avec le micro.
Je vais prendre
micro,
de sa nervosité.
Je vais y prendre le micro, là, si ça continue. Non.
Vous ennuyez pas trop? Ça va bien? Vous êtes pas trop nerveux? C'est beau, correct. On continue.
Vous êtes nerveux pour nous autres, hein, c'est ça. Hein? Un Jean maintenant, dans l'épître de Jean. Jean, il continue, Jean, il a vieilli, c'est sûr. Il continue avec un pas mal son même message. C'est surtout dans 1 Jean 2 et 3 et un peu 4. Il dit dans 1 Jean 2, au verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en moi, en lui, non, parce que là, c'est plus Jésus qui parle, c'est Jean, en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » On marche comme Jésus a marché, ça veut dire qu'on est capable. Si on demeure en lui, on doit, donc on peut. On demeure en lui, on peut marcher comme Jésus a marché.
Et accomplir des choses sur le plan... accomplir des choses que juste avec nos forces, à nous, on pourrait pas faire. Puis souvent, c'est ça qu'on se dit, Seigneur, moi, je me vois pas, comme Sonia est ici en avant et parler calmement, comme elle le fait là, elle se voyait pas faire ça.
Non.
Mais c'est ça, ça prend une grâce, ça prend une touche spéciale de Dieu, ça prend beaucoup, beaucoup de prières, puis c'est ça, c'est de faire sa volonté, et non pas pour notre gloire à nous, mais pour servir. Puis comme je vous disais, ce message-là, il nous a touchés à notre cœur, puis ce qu'on vise, c'est qu'il touche votre cœur, qu'il développe un début de réflexion par rapport à l'intimité avec Dieu, l'intimité.
Je suis sûre que tout le monde ici vit de l'intimité avec Dieu, puis il y en a qui ont vécu beaucoup de choses très, très profondes là, dans le renouveau et tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment, on peut toujours aller plus loin là-dedans. On peut toujours aller plus loin. Et puis, c'est pas Dieu qui se rapproche de nous. Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il change pas. Il est toujours là. Si on manque d'intimité avec lui, c'est pas de sa faute. C'est pas lui, là. C'est nous. Nous, on est ici. On est ici. Ou on est là. Alors, c'est nous, c'est pas lui. C'est notre responsabilité à nous, parce qu'il a payé le prix.
C'est notre choix.
Il a payé le prix pour cette intimité-là. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui avaient une intimité profonde avec Dieu. Mais dans le Nouveau, on a une nouvelle alliance, et puis le voile est déchiré, on a l'accès. Puis on est aussi intime avec Dieu que nous décidons de l'être.
Amen.
Nous décidons d'être intimes. C'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Puis il est là, les bras ouverts, puis il nous attend.
On peut faire le parallèle avec les humains. Je veux dire, moi, on parle que nous, moi et toi, on a un bon niveau d'intimité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, quand je travaillais, puis quand j'avais plein d'activités, puis tout ça, puis vous savez, Sonia peut vous dire, j'ai du talent pour me remplir un agenda. Fait que... elle peut vous le mentionner, puis il y a des moments que c'est ça, c'est elle qui a fallu qu'il me dise « Wow, là, on va-tu pas? »
Ouais, il fallait que je tire d'un bord. Lui, il tirait l'autre bord, moi, je tirais d'un bord.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
Mais c'est pour une bonne cause.
Puis tu vois, là, on est ensemble 90% du temps, là, puis on s'entend bien, puis c'est ça, on vit l'intimité comme on n'a jamais vécu. Je peux-tu ouvrir une parenthèse? Toute parenthèse.
Ça, oui, t'as beau.
OK, merci. Parce que, là, quelques années, j'étais allé assister à un mariage chrétien, puis le pasteur, il a amené une information, puis j'ai recommuniqué avec lui cette semaine, puis ça nous disait qu'il y a des études qui ont révélé que ceux qui se mariaient dans l'Église et qui continuaient à fréquenter l'Église voyaient le taux de divorce passer de 1 à 5, parce que dans la société en général, le taux de divorce est environ de 1 sur 5. Ils voyaient le taux de 1 à 5 passer de 1 sur 50. Donc, se marier dans l'Église, continuer à fréquenter l'Église, on passe de 1 à 50. Mais il y a un autre, la même étude révèle que les couples qui fréquentent l'Église, après le mariage, qui ont une vie de prière en couple, ce que l'on fait, active à la maison, vie de prière en couple active à la maison, le taux du divorce passe alors de 1 sur 50 à 1 sur 1105. Donc, si vous voulez une raison...
Un taux de réussite de 99%, si on compte ça, à peu près.
Exactement.
C'est bon.
Donc, on a, J'encourage les hommes à prendre du temps et prier avec votre épouse à la maison. Vous me laissez ça comme devoir aujourd'hui. Ouais. Surtout, c'est la fête des mères. Fait que c'est pas facile. Je trouve
que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vos enfants.
Oui, aussi. Parce que nos enfants, nous, ils savent qu'on prie ensemble. Ils savent qu'on prie pour eux. Ils savent qu'on est unis ensemble dans la prière et tout ça. Puis, je pense qu'ils voient dans notre verbal comme dans notre non-verbal aussi. Mm. C'est ça. Je pense qu'on s'aime. En tout cas, moi... je suis sûr qu'on s'aime. Là, elle me chicanera pas après, là. Mais c'est... Regarde!
T'as pas d'affaire à dire ça.
Mais depuis... depuis qu'on a commencé à prier ensemble, des fois, je la vois assise là, puis quand puis merci, ce qui vient sur mon cœur, merci Seigneur pour Sonia, merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée, puis merci parce que je l'aime, puis merci de moi encore plus d'amour pour elle, encore plus de tendresse pour elle. C'est ça. Puis, c'est ça le désir de mon cœur. Je sais, ça fait têteux là, mais c'est vrai.
Bon, je suis contente d'entendre ça ce matin. Même si ça fait têteux. Donc, au verset 14, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dieu en nous vainc le malin. Pas par nos propres forces, mais par sa force.
Et pour vaincre, ça parle de bataille, ça parle de guerre, ça parle de combat. Donc, c'est un combat, c'est une guerre, c'est un engagement qu'il faut faire.
OK. Verset 17, on dit, « Le monde passe et sa convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il nous rend capable de faire sa volonté en demeurant en lui. » Et nous demeurons éternellement. Il nous protège, il nous garde jusqu'à la fin. 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et aussi dans le Père. Donc, on doit rester dans la bonne doctrine. On doit rester dans ce qu'on a reçu au début. On ne doit pas dévier, on doit rester dans la parole, dans qu'est-ce qu'on a reçu quand on est devenu chrétien. On doit rester dans la bonne doctrine.
Et nos balises, ce sont la parole de Dieu, ce sont les enseignements qu'on lit, qu'on voit, qu'on entend dans les messages et tout ça. Donc, oui, il faut demeurer. Et c'est facile d'aller à gauche puis d'aller à droite. C'est facile d'aller voir ailleurs.
Parce qu'il y a différentes choses qui se font aujourd'hui, qui se disent, qui des fois... C'est pas tout à fait ce qu'on a reçu quand on est devenu chrétien. Il y a des petites choses là maintenant, puis il faut réellement demeurer dans l'intimité avec Dieu, demeurer en lui, demeurer dans sa parole.
Amen.
Sa parole qui est la vérité. Donc, on se trompera pas. Amen. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est dur, ça, mais pratiquer le péché, ça veut dire, c'est pas faire un péché comme ça, mais...
Parce que tout le monde pêche.
On en fait tous.
Mais c'est de pratiquer. C'est ça pratiquer. Le mot important. Pratiquer.
Un péché récurrent, quelque chose qui revient constamment.
Exactement. C'est ça qu'il faut éviter. Puis c'est ça que l'intimité avec Dieu va nous aider à se guérir, à se débarrasser. Parce que c'est ça, c'est pratiquer le péché, c'est ça qui est la... Quelle va être la conséquence de pratiquer le péché?
La conséquence, qu'est-ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'on va s'éloigner. Dieu reste là, il ne s'éloigne pas. Il nous aime tel que nous sommes, il ne s'éloigne pas, il reste là. La conséquence, c'est que nous, on devient honteux, on se sent coupable.
Et qu'est-ce que vous pensez?
On pense qu'on n'est pas capable de s'en sortir, donc on se recule. Ouais,
mais c'est ça, mais c'est le fait que c'est aussi l'ennemi, vous lui, va embarquer.
L'ennemi nous dit qu'on est indigne.
Il va avoir une porte ouverte pour nous dire justement qu'on n'est pas bon, qu'on est possible, qu'on est ça puis ça.
Puis ce que je vois, c'est que c'est la chose à pas faire. Si on a un péché dans notre vie, on a de la misère dans quelque chose, dans un aspect de notre vie, qu'on a une faiblesse, quelque chose... Qu'est-ce qu'il faut faire? Au contraire de s'éloigner, il faut se rapprocher plus on va se rapprocher. C'est pas par nos propres forces encore là, c'est pas par nos efforts, parce que c'est par sa grâce. Mais il faut se rapprocher de lui. Plus on va être proche, plus on va le connaître, plus on va vouloir lui plaire, plus on va l'aimer. Mm-hmm. Plus ce qui est pas de lui va partir, plus on va être rempli de sa présence, plus on va avoir la force, on va être puissant, plus ce qui est péché, ce qui vient, les faiblesses, les péchés vont disparaître, tout simplement, puis ça va venir tout seul. C'est vraiment là la clé de vivre une vie de puissance, une vie où on a la victoire sur le péché, on domine sur ces choses-là, c'est juste en lui. Parce que sinon, ça devient du légalisme.
Et la conséquence de ça, c'est que ça bloque l'accès à l'ennemi, parce que l'ennemi n'aura plus accès à nos pensées. Avec l'intimité de Dieu, avec la puissance qu'on va avoir de Dieu, l'ennemi n'aura plus d'accès pour nous blesser et nous faire changer de voie, nous sortir du sentier.
OK. Verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » On est scellé par son Esprit, et nous gardons ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Bon, alors, il y a quelques autres versets qui parlent de ça, mais je vous encourage à les lire dans Jean et dans 1 Jean. Tout ce qui a rapport à demeurer en Dieu et Dieu en nous, puis c'est le principal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'amour? C'est qu'est-ce que Jésus a dit? Les deux plus grands commandements, on peut le dire ensemble?
Mes commandements préférés.
Matthieu 22, verset 37. Je peux-tu
le lire, Sonia?
36 à 40.
Hein, Sonia, je peux-tu le lire?
Oh oui.
Oui, OK.
Excusez.
Non, c'est correct. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et tu t'aimeras comme toi-même. C'est quoi que l'ennemi essaie de faire? Il essaie de nous dire qu'on n'a pas de valeur, puis qu'on apprend à ne pas s'aimer, que c'est dur de s'aimer. Puis la société nous dit des choses, qu'on va t'aimer si tu fais ci, si tu fais ça, si tu réussis ici. Regardez les compétitions. C'est qui, de qui qu'on parle? Celui qui a fini premier. On ne parle pas de celui qui a fini deuxième puis troisième. Avec Dieu, vous êtes toujours le premier. Puis c'est ça, tu aimeras le prochain comme toi-même. L'intimité avec Dieu va faire que vous allez vous sentir aimé. Sonia disait qu'il n'y a pas de chouchou, mais moi, je me sens chouchou de Dieu.
On est tous des chouchous.
On est tous des chouchous. c'est ça. Puis avec ce sentiment-là, l'ennemi a beau venir nous dire n'importe quoi, on réfère à qui? On réfère à ce que Dieu pense de nous, à ce que Dieu dit de nous. OK, Sonia, tu peux continuer, tu vas très, très bien. Moi, je trouve. C'est vrai qu'elle fait bien ça, hein? Oui, il y a du talent, il va falloir que tu te reprennes. Mais ça fait des semaines intenses et intensives, hein? Et boy, on n'a rien fait d'autre dans les deux dernières semaines.
Des gros papillons dans l'estomac, vraiment, là, je vous le dis.
On n'a rien fait d'autre dans les deux dernières semaines. Fait que là, il y a plein d'ouvrages à faire à la maison, là, ça fait que.
OK, on va parler de l'amour plus spécifiquement. Donc, le chapitre qui parle de l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Veux-tu le lire?
Je vais remonter à le lire là. Okay. Là. Il est où? 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai... c'est toi qui vas amener les commentaires.
OK.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour, c'est quelque chose. Et quand j'aurai... Là, j'ai dévolu ça. Que je suis vite, hein? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est lequel? Ou que tu me disais... La charité.
Ouais.
Là, vas-y, je te laisse continuer. C'est okay. Toi qui as trouvé celle-là.
OK. Bon, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Oui, oui, mais je vais le lire avant.
Oui, okay. C'est bon de clarifier.
L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais.
Ouais, mais là, ça...
Avec tout ce qu'on a dit tantôt...
Oui, mais tu disais les « je ».
Oui, ben oui, c'est ça.
OK.
Avec tout ce qu'on a dit tantôt, c'est que là, Jésus, en nous, demeurant en nous, le Père qui est en Jésus, Jésus dans le Père, dans le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, on peut dire qu'il habite en nous, donc Jésus en moi... est patient. Jésus en moi est plein de bonté. Jésus en moi n'est point envieux. Jésus en moi ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Donc, on peut changer ça par « je ». Bon, Sonia est patiente.
C'est vrai.
Elle est pleine de bonté. Ouh! Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Là, vous pouvez mettre votre nom, là. C'est pour chacun de nous, ça. C'est pas juste pour moi, là. C'est pour chacun de nous qui demeurons
Puis
en Dieu.
Il faut y croire aussi, là.
Mais il faut marcher. Il faut marcher dans cette vérité-là parce que c'est puissant. C'est que c'est le Seigneur s'est dit que c'est dans sa parole, il nous rend capables.
C'est ça. C'est ça à quoi on est appelé, à être tout comme ça, à être patient, à être plein de bonté, à être plein de... ne pas être envieux, puis ne pas se vanter, même si des fois, ça vaudrait la peine un peu. Mais non, c'est une farce. C'est une farce. Non, j'ai dit quoi? OK, c'est bon.
Il y a un verset qui dit qu'un autre te vante.
OK, oui, je sais. Oui, mais, OK.
L'amour ne périt jamais. Donc, c'est ça. On est déjà 11h20. Mais on veut parler un peu d'intimité aussi, parce que si Jésus lui-même a dû se mettre à l'écart, Jésus lui-même, pour avoir une relation, une communion avec son Père, il devait se mettre à l'écart. Il allait prier sur la montagne, il allait dans les déserts, il se séparait de ses disciples, puis il s'en allait seul avec Dieu. Donc, si lui a eu besoin de ça, à combien plus forte raison, nous, on en a besoin. Si Jésus a fallu qu'il fasse ça avec l'onction qu'il avait sur lui, il faut que nous, on le fasse. On n'a comme pas le choix, parce qu'on va travailler de nos propres forces.
Et il faut se faire violence pour se mettre un temps à part. Puis il y a différents caractères. Comme Sonia n'a pas tellement de difficultés, parce que dans son caractère, elle aime ça. Elle a besoin de ces moments de solitude, de réflexion et tout ça. Moi, je suis différent. Puis j'en aurais pas pantoute, puis que ça ne me dérangerait pas. Mais il faut que moi, je fasse des efforts pour justement me prendre du temps à part. Prendre du temps à part pour justement, tout comme Jésus, aller prier, parler... lire la parole et consulter Dieu?
On va aller... Bon, il y a plein d'autres choses, mais je voulais peut-être... Marthe et Marie. On va parler de Marthe et Marie en Luc 10, versets 38 et 30... et 20, versets 38 à 42.
Voyez-vous, on a pris tous les personnages que tout le monde connaissait. Hein? Qui connaît pas l'histoire de Marthe et Marie? Hein? Fait que, mais on encore là... L'intimité, le choix. Marthe et Marie étaient deux femmes qui ont fait des choix. Et
on va le lire vraiment comme tranquillement, comme ça. Là. Bon, Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ben, je pense que ça devait être la première fois qu'ils se rencontraient. Elle avait une sœur nommée Marie qui... s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie a décidé que c'était ça qu'elle faisait. Elle allait s'asseoir là, aux pieds du Seigneur, pour écouter sa parole. Elle dit, il passe, je ne le laisserai pas. Je ne passerai pas mon tour.
Elle voulait être près du Seigneur. Elle s'était placée près du Seigneur pour justement pour recevoir. Elle avait faim et soif de la présence de Jésus.
Donc, après ça, Marthe, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Donc, Marthe, elle aimait pas ça que Marie soit au pied de Jésus. Elle voulait que Marie soit avec elle puis fasse les choses avec elle.
Mais regarde, Sonia, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça, c'est que Marie, elle a fait le choix un peu d'être enfant de Dieu. Elle voulait être proche. L'autre avait un peu l'esprit de servitude, un esprit d'orphelin, un esprit que on gagne la faveur de Jésus. Hey, que vous êtes bon, vous allez venir ici un moment donné. Elle gagne la faveur de Dieu par ses œuvres, par ses actions, alors que c'est pas ça que vous connaissez. On va vous découvrir la suite.
OK. Le Seigneur lui répondit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, on s'inquiète, on s'agite, mais Marie, elle était assise au pied de Jésus, puis elle écoutait sa parole. Elle l'écoutait parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien de notre vie, puis juste c'est assis là, puis...
Mais... Ça ne veut pas dire que Marie n'a rien fait par après non plus.
Non, non.
C'est ça. Mais elle allait prendre une réserve d'amour, réserve de connaissances, réserve... Elle remplissait son réservoir d'affection.
Affectif.
elle remplissait son réservoir affectif. Puis à partir de là, elle était prête à servir.
Ouais. Puis le Seigneur, il a préparé des œuvres pour qu'on les fasse.
Des bonnes œuvres.
Des bonnes œuvres qu'on les fasse. On a chacun des œuvres de préparer pour qu'on les fasse. Mais si on veut savoir quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, on n'a pas le choix de commencer par là. La première œuvre que je pense que Dieu demande à chacun de nous, puis il n'y a pas personne qui est exempté ici, c'est l'intimité avec lui. C'est la première œuvre. C'est une œuvre. C'est parce que on se dit, hey, c'est passif. Prier, c'est passif. S'asseoir au pied de Jésus, c'est passif.
Produit quoi?
Mais, tu sais, ça a l'air passif. Mais... Ça a l'air passif, là, pour les autres. Mais c'est très actif parce que...
Parler à ceux qui font partie des groupes d'intercession et tout ça, ce n'est pas passif. C'est très actif et ça brûle de l'énergie. Ça demande ça demande de l'énergie, ça demande de la consécration. Puis, regarde, dans ce sens-là, on pourrait aller avec le verset que tu as trouvé un matin vers 6 heures du matin.
Oui, peut-être pas le verset, mais en Luc 2.
On parlait de Anne.
Ben, c'est ça. En Luc 2.
Madame Anne.
En Luc 2, versets 36 et 37. Donc, Jésus est présenté au temple. Luc 2, à partir du verset 36. Là, il a été présenté à Siméon. Et puis là, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, donc 63 ans plus tard, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, étant arrivée, elle aussi, à cette heure même, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle, son appel, ça a été de passer tout son temps dans le temple, dans le jeûne et la prière. Les gens devaient dire, hey, tu parles d'une vie, toi, c'est passif. C'est passif comme vie. Mais elle, c'était son appel. Je pense que le Seigneur l'a appelée pour un temps comme celui-là, pour préparer sa venue. Comme il a préparé Jean-Baptiste, qui est allé préparer son chemin, mais il a préparé une personne comme Anne, qui finalement, elle avait pas un ministère public, elle était dans le temple, puis c'était très caché, caché.
Elle était dans l'ombre, mais pourtant, c'est une des rares personnes qui a su discerner que...
Elle a reconnu Jésus.
Jésus enfant.
Comme Siméon a reconnu Jésus aussi. Donc... Il y a des ministères cachés comme ça. Des ministères où les gens se disent, voyons, il fait pas grand chose, lui, il fait pas grand chose, elle. Mais le ministère de prière, le ministère d'intercession, c'est important. Je peux vous dire que c'est pas passif, c'est actif. Puis sans la prière, on peut rien faire. Sans l'intimité avec Dieu, on ne peut rien faire. Parce qu'on se coupe de la puissance de Dieu. Donc, c'était notre message. On avait d'autres choses, mais en tout cas, c'est le, je pense, le principal de qu'est-ce qu'on voulait amener ce matin. On a une feuille ici.
On pourrait faire un résumé. Je veux dire, donc, qu'est-ce qui est important, c'est de demeurer.
Ouais.
Je vais dire les premiers mots, puis on va dire le reste. Non. Demeurer quoi?
Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa parole. Demeurer dans son amour. Demeurer dans l'esprit d'adoption qui nous dit « Abba, Père ». Demeurer dans ses commandements. Demeurer dans la communion fraternelle aussi. On peut dire ça. Demeurer dans toutes les choses que le Seigneur nous a recommandées. Puis on se trompera pas. Puis en demeurant en lui, on se sanctifie. Puis on ne pratiquera pas le péché. Puis on va vraiment... avoir une vie chrétienne qui s'épanouit. On va porter du fruit. 30, 50, 100, on va porter du fruit. On va demeurer attaché au cep. On va être un sarment qui porte du fruit puis qui va être une bénédiction pour les autres.
Et vous allez accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour...
On va faire des œuvres, mais ça va être, on va savoir. On va connaître notre appel. On va connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous. Amen.
Amen. Fait que là, on vous encourage à demeurer ici, parce que là...
Ouais.
OK, j'ai bien utilisé ça, hein. Puis on encourage les madames, toutes les mamans, à venir en avant. Ah oui, oui, aller chercher les petits cadeaux. Fait que toutes les madames, avancez en avant, parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Toutes les mamans, on veut les voir en avant. Puis là, on va demander à Jean-Marc, Daniel et Maxime de venir en avant, parce que vous autres, il y avait une tâche spéciale pour aujourd'hui. Eh oui, c'est des... Amen. Puis, c'est ça, moi, je trouve que vous...